Chapitre 3. Voiture, cerf-volant et ballon de feu. Mon père était un très bon mécanicien. Des gens qui habitaient à des kilomètres venaient lui confier leur voiture à réparer plutôt que de s'adresser au garage le plus proche. Il avait une passion pour les moteurs. Un moteur à essence, c'est de la pure magie, me dit-il un jour. Imagine un peu, prendre un millier de morceaux de métal différents, les rassembler d'une certaine manière et puis verser dedans un peu d'huile et d'essence. Et si tu appuies sur un petit bouton, tous ces morceaux de métal prennent vie d'un seul coup. Ils ronronnent, grondent, rugissent et arrivent à faire tourner les roues d'une voiture à des vitesses extraordinaires. Il était inévitable que moi aussi je tombe amoureux des moteurs et des voitures. N'oublions pas qu'avant même que je sache marcher, l'atelier avait été ma salle de jeu. Car dans quel autre endroit mon père aurait-il pu me surveiller toute la journée? Mes jouets étaient les rouages, les ressorts et les pistons pleins de graisse, étalés partout, et croyez-moi, il était beaucoup plus amusant de jouer avec ça qu'avec la plupart des choses en plastique qu'on donne aux enfants d'aujourd'hui. Et donc, quasiment depuis ma naissance, j'avais commencé à apprendre la mécanique. Mais maintenant que j'avais 5 ans, il fallait songer à la question de l'école. D'après la loi, les parents devaient envoyer leurs enfants à l'école à l'âge de 5 ans. Et mon père le savait. Je me souviens, nous étions dans l'atelier le jour de mon 5e anniversaire, quand on a commencé à parler d'école. J'aidais mon père à remplacer les garnitures de frein sur la roue arrière d'une grosse Ford quand tout d'un coup, il m'a parlé. « Tu veux que je te dise quelque chose qui va t'intéresser, Danny ? Tu dois être le meilleur mécanicien de 5 ans qui existe au monde. » C'était le plus beau compliment qu'il m'ait jamais fait. J'étais fou de joie. « Tu aimes ce travail, n'est-ce pas » m'a-t-il dit, plonger les mains dans le cambouis. « J'adore ça !» lui ai-je répondu. Il s'est tourné pour me regarder dans les yeux et a posé doucement une main sur mon épaule. « Je veux t'apprendre à être un excellent mécanicien. Et quand tu seras grand, j'espère que tu deviendras un ingénieur célèbre, un homme qui inventera de nouveaux moteurs pour les voitures et les avions. Pour cela, a-t-il ajouté, tu devras suivre de bonnes études. Mais je ne veux pas t'envoyer à l'école tout de suite. Dans 2 ans, tu en auras suffisamment appris avec moi pour être capable de démonter entièrement un moteur et de le remonter toi-même. Après ça, tu pourras aller à l'école. » Vous pensez sans doute que mon père était fou pour essayer d'apprendre à un enfant à devenir un expert en mécanique, mais justement, il n'était pas fou du tout. J'apprenais vite et j'y trouvais un plaisir de tous les instants. Par chance, personne n'est venu frapper à notre porte pour nous demander pourquoi je n'allais pas à l'école. Ainsi, 2 années passèrent et, à l'âge de 7 ans, croyez-le ou pas, je pouvais véritablement démonter entièrement un petit moteur et le remonter moi-même. Je dis bien démonter vraiment toutes les pièces, les pistons, le vilebrequin et tout le reste. Le temps était venu de commencer l'école. Mon école se trouvait dans le village le plus proche, à 3 kilomètres. Nous-mêmes, nous n'avions pas de voiture. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Mais il n'y en avait que pour 1/2 heure à pied, et cela ne me dérangeait pas le moins du monde. Mon père m'accompagnait. Il insistait pour venir. Et quand la classe se terminait, à 4 heures de l'après-midi, il m'attendait toujours pour me ramener à la maison. Et la vie continuait ainsi. Le monde où je vivais se composait de la station-service, de l'atelier, de la roulotte, de l'école et bien sûr, des bois, des champs et des cours d'eau de la campagne environnante. Mais je ne m'ennuyais jamais. Il était impossible de s'ennuyer avec mon père. C'était un homme trop plein d'entrain pour cela. Il débordait de projets, d'inventions, de nouvelles idées qui jaillissaient de lui comme des étincelles sur une pierre à aiguiser. « Il y a un bon vent aujourd'hui », m'a-t-il dit un samedi matin. « Juste ce qu'il faut pour jouer au cerf-volant. On va en fabriquer un, Danny. » Et nous en avons fabriqué un. Il m'a appris comment lier 4 minces baguettes en leur donnant la forme d'une croix et à les consolider avec 2 autres morceaux de bois au centre. Ensuite, Nous avons découpé une de ses vieilles chemises bleues et nous avons tendu le tissu sur le cadre du cerf-volant. Nous avons ajouté une longue queue, faite avec du fil à coudre auquel nous avons attaché à intervalles réguliers les petits morceaux de tissu qui nous restaient. Nous avons trouvé une pelote de ficelle dans l'atelier et mon père m'a montré comment la fixer au cadre de bois pour que le cerf-volant soit bien équilibré quand il volerait. Nous sommes alors montés tous les deux au sommet de la colline, derrière la station-service, pour lancer le cerf-volant dans les airs. J'avais du mal à croire que cet objet, simplement constitué de quelques bouts de bois et d'un morceau de vieille chemise, puisse véritablement voler. Je tenais la ficelle, mon père le cerf-volant. Et au moment où il l'a lâché, le cerf-volant a pris le vent et s'est élevé comme un immense oiseau bleu. « Déroule encore la ficelle, Danny !» s'est écrié mon père. « Vas-y, autant que tu veux !» Le cerf-volant s'est alors élevé de plus en plus haut. Bientôt, il n'était plus qu'un petit point bleu dansant dans le ciel à des kilomètres au-dessus de ma tête. Et c'était merveilleux de tenir quelque chose qui se trouvait si loin et semblait si vivant. Cette chose lointaine tirait sur la ficelle, luttait comme pour s'en détacher, à la manière d'un gros poisson au bout d'une ligne. « Ramenons-le vers la roulotte, » a dit mon père. Nous avons redescendu le flanc de la colline, moi tenant toujours la ficelle, le cerf-volant continuant de tirer férocement à l'autre extrémité. Lorsque nous sommes arrivés chez nous, nous avons pris soin de ne pas emmêler la ficelle dans les branches du pommier, et nous avons fait le tour jusqu'aux marches, devant la porte de la roulotte. « Attache-le aux marches, » a dit mon père. « Il va continuer à voler ?» lui ai-je demandé. « Oui, tant que le vent ne retombera pas. » Le vent n'est pas retombé. Et je vais vous raconter quelque chose d'incroyable. Ce cerf-volant est resté en l'air toute la nuit. Et le lendemain, à l'heure du petit déjeuner, il continuait de danser et de planer dans le ciel. Après avoir mangé, je l'ai ramené à terre et l'ai accroché soigneusement à un mur de l'atelier pour une prochaine fois. Pas très longtemps après, un soir de grand calme, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle de vent, mon père me dit « C'est le temps idéal pour faire voler un ballon de feu. On va en fabriquer un. » Il avait dû prévoir cela bien avant, car il avait déjà acheté 4 grandes feuilles de papier de soie et un pot de colle à la librairie papeterie de Mr. Wheaton, au village. Et là, avec simplement du papier, de la colle, une paire de ciseaux et un mince fil de fer, il m'a construit en moins d'un quart d'heure une magnifique montgolfière miniature. Il a attaché un petit morceau d'ouate à l'ouverture pratiquée au-dessous et tout était prêt. Il commençait à faire sombre lorsque nous avons emporté la montgolfière dans le champ, derrière la roulotte. Nous avons pris aussi une bouteille d'alcool à brûler et des allumettes. Je tenais le ballon droit, pendant que mon père s'accroupissait au-dessous et versait avec précaution un peu d'alcool à brûler sur le tampon d'ouate. « Et voilà » a-t-il dit en approchant une allumette de l'ouate. « Écarte le papier autant que tu le peux, Danny !» Une haute flamme jaune a aussitôt jailli du tampon d'ouate et s'est élevée à l'intérieur du ballon. « Il va prendre feu, monsieur !» j'ai crié. « Non, » m'a rassuré mon père. « Regarde !» Tous les deux, nous tenions la montgolfière en tirant sur le papier pour l'éloigner de la flamme. Mais bientôt l'air chaud a empli le ballon et il n'y a plus eu aucun danger. « Il est presque prêt, » a dit mon père. « Tu le sens flotter ?»« Oui, » ai-je répondu. « Oui, on le lâche ?»« Pas tout de suite. Attends encore un peu. Attends qu'il pousse vers le haut pour s'envoler. »« Ça y est, il pousse. Très bien. Lâche-le !» Et lentement, majestueusement, dans un silence absolu, le ballon merveilleux a commencé à s'élever dans le ciel nocturne. « Il vole !» Je criais en tapant des mains et en sautillant sur place. « Il vole ! Il vole !» Mon père était presque aussi excité que moi. « C'est une beauté » a-t-il dit. « Il est vraiment magnifique. On ne sait jamais ce que ça va donner avant qu'il s'envole. Chaque ballon de feu est différent. » Le ballon montait, montait, s'élevant très vite dans l'air frais de la nuit. C'était comme s'il y avait dans le ciel une boule de feu magique. « Tu crois que d'autres gens vont le voir ?» ai-je demandé. « Oh, sûrement, Danny. Il est suffisamment haut, maintenant, pour qu'on puisse le voir à des kilomètres à la ronde. « Qu'est-ce qu'ils vont penser, papa ?»« Que c'est une soucoupe volante, » a répondu mon père. « Ils vont sans doute appeler la police. » une petite brise s'était emparée du ballon et l'emportait en direction du village. « On va le suivre, » a dit mon père. « Avec un peu de chance, on le retrouvera quand il retombera par terre. » Nous avons couru jusqu'à la route, puis le long de la route, et nous avons couru, couru. « Il redescend !» a crié mon père. « La flamme s'est presque éteinte !» Lorsqu'elle s'est éteinte pour de bon, nous avions perdu de vue le ballon, mais nous pouvions deviner dans quel champ il allait atterrir. Nous avons alors escaladé une clôture et nous avons couru jusqu'à cet endroit. Pendant une demi-heure, nous avons fouillé le champ dans l'obscurité, mais nous n'avons pas pu retrouver notre ballon. Le lendemain matin, je suis retourné seul pour le chercher. J'ai dû passer 4 champs au peigne fin avant de le découvrir. Il se trouvait au coin d'un pré rempli de vaches blanches et noires. Les vaches s'étaient rassemblées tout autour et le contemplaient de leurs grands yeux humides. Mais elles ne l'avaient pas du tout abîmé. Alors, je l'ai rapporté à la maison et accroché à l'un des murs de l'atelier, juste à côté du cerf-volant, pour une prochaine fois. « Tu peux jouer tout seul avec le cerf-volant quand tu voudras, » m'a dit mon père, « mais ne fais jamais voler le ballon sans que je sois là. Ce serait extrêmement dangereux. »« Très bien, » lui ai-je répondu. « Promets-moi que tu n'essayeras jamais de le faire voler tout seul, Danny. » »«
C'est promis. »
Ensuite, nous avons bâti une maison dans un arbre, en haut du grand chêne, au fond de notre champ. Il y eut aussi l'arc et les flèches. L'arc était constitué d'une branche de frêne d'1,20 m de longueur et les flèches étaient équilibrées avec les plumes de queue d'une perdrix ou d'un faisan. Après, il y a eu des échasses qui me faisaient mesurer 3 mètres et un boomerang qui revenait vers moi et tombait à mes pieds presque à chaque fois que je le lançais. Enfin, pour mon anniversaire, j'ai eu quelque chose qui était peut-être encore plus amusant que tout le reste. 2 jours avant, il m'a été totalement interdit de pénétrer dans l'atelier parce que mon père y travaillait en secret. Le matin de mon anniversaire, une formidable machine est sortie de l'atelier. Elle était composée de 4 roues de vélo et de plusieurs caisses à savon. Mais ce n'était pas une caisse à savon ordinaire. Elle avait une pédale de frein, un volant, un siège confortable et une grosse barre de protection à l'avant pour amortir les chocs en cas de collision. Je l'avais appelée Savona. Et presque chaque jour, je la tirais tout en haut de la colline, dans le champ qui s'étendait derrière la station-service, avant de descendre la pente à une vitesse incroyable, sautant sur les bosses comme un cavalier sur un cheval sauvage. Vous voyez donc qu'avoir 8 ans et vivre avec mon père était vraiment très amusant. Mais j'étais impatient d'avoir 9 ans. Je pensais qu'avoir 9 ans serait encore plus amusant que d'en avoir 8. L'avenir m'a démontré que je me trompais un peu. Ma 9e année a certainement été plus palpitante que les autres, mais amusante n'était pas exactement le mot qui convenait.